Bonjour, bonsoir, c'est Manu et je suis très heureux de vous présenter ce nouvel épisode de Radio Cassette. Dans chaque épisode de Radio Cassette, on vous raconte l'histoire d'un disque culte qui a marqué nos années 90. Dans cet épisode, on va vous parler de Miss Lauryn Hill, l'une des rappeuses les plus adulées de l'histoire du hip-hop. 2 ans après The Score, la chanteuse des Fugees revient en 98 avec un album solo, The Medication of Lauryn Hill, qui devient instantanément un classique. C'est une véritable déclaration d'intention, loin de la routine gangsta habituelle. The Medication, c'est tout de suite maintenant avec le Cassette Crew. On va vous raconter la story avec Olivia.
Salut, salut.
On sera en studio avec Grégoire.
Hey, salut la compagnie.
Et on reviendra sur le clip de Doo Wop avec Fanny.
Hello.
Alors, on va commencer par se réécouter l'album en mode Fast and Furious, Babylon, Zion. C'est parti. Funny how money changes situation. Miscommunication lead to complication. My emancipation don't fit your equation. I was on the humble, you on every station. Someone play young Lauren like she done. Why won't you live for me, girl?
I know none of the guys gonna raise their hand. Guys, you know you better. Watch out. Some girls are only about
that thing. Come on, baby, light my fire. Come on. Everything you drop is so tired. Lauryn Hill from New York to Israel, and this is real, so I keep making the street ballads while you looking for dressing to go with your tough salad. You get the money. Get the power.
What do you think about love? Come on.
Okay, Lord.
Nothing even matters. Nothing even matters. Nothing even matters. Oh, oh, oh.
Let me tell you that.
Voilà pour les 16 titres de The Medication. Et oui, parce qu'il y a 2 titres cachés. C'est le premier et le dernier album solo de Lauryn Hill. Il sort pour la rentrée scolaire le 25 août 1998 en compact disque, cassette, vinyle et mini-disque sur le label Rough House chez Sony. Quand Lauryn Hill se lance en solo, c'est une année de ouf. En fait, dans l'ordre, il y a Dr. Dre qui va découvrir Eminem, il y a Terminator X qui quitte Public Enemy, dont il était le DJ. Rosa Parks poursuit Outkast en justice et Prince, lui, devient scientologue. Voilà,
grosse année. Et, c'est sûr.
Et c'est pas fini.
Et plus largement, en 98, c'est aussi l'année du couple Bill Clinton-Monica Lewinsky.
Grosse année.
Et des Jeux Olympiques d'hiver de Nagano. voilà.
Ici, à Nagano.
C'est ça.
Nelson Montfort.
En France, on va voir Titanic et les Bleus gagnent, eux, la Coupe du Monde.
Ah, bah c'est ça, la seule chose à retenir de 98, quand même.
C'est la seule chose qu'on a retenue, en tout
cas. Et un, et deux.
Et 3-0. Donc voilà pour l'éphéméride. On va commencer par faire un petit tour de table. Alors, Laurine Hill, les Fugees, on va commencer par toi, Grégoire.
Bah pour moi, c'est des souvenirs de boom, essentiellement, des souvenirs de flirt d'été.
Ouh, chaud.
Ouais, c'est des trucs un peu chauds comme ça.
Ça pue le love.
Non, mais ça pue le love. Et puis, j'ai l'impression que c'est des musiques qui ont infusé comme ça un peu toute cette période des années 90. Après, j'ai pas de souvenirs réellement précis parce que vous savez que moi, à l'époque, j'écoutais plutôt du gros son. J'écoutais plutôt du gros son, donc du coup, Lauryn Hill, c'était pas spécialement ma came. Donc, je pense que c'est un album que j'ai redécouvert plus tard, notamment récemment parce qu'en fait, j'en ai fait l'acquisition, figurez-vous, en vinyle, et ce qui m'a permis de un petit peu de le redécouvrir. Et c'était très cool, très agréable. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'ai pas eu de souvenirs très très précis parce que c'était pas vraiment mon clan. C'était des musiques qu'on entendait absolument partout. Donc pas de souvenirs précis, mais en tout cas oui, c'est quelque chose qui a marqué ma jeunesse, ouais, clairement.
Ok, merci Grégoire, c'était très intéressant.
Non, mais si on t'emmerde, tu nous le dis, hein, parce que...
non mais ok, non,
pas
mais
de souvenirs précis, désolé.
Je respecte. Et toi Olivia, ça te rappelle quelque chose à toi ou pas?
Alors moi c'est surtout les Fugees.
Ouais,
donc un peu avant. Vraiment ça nous avait vraiment beaucoup marqué à l'époque, j'imagine. Cet album là en particulier, je me souviens pas l'avoir écouté peut-être en 98, beaucoup plus tard. Mais en effet, ça transpire la boum, ça transpire le oh, je vais l'inviter, lui, c'est le quart d'heure américain.
Carrément, quart d'heure américain
à fond. À fond la caisse. Et vraiment, tu sentais que tu pouvais un peu pécho là sur le truc.
Pas sûr que le quart d'heure américain, ça concerne plus les garçons,
oui,
pour
mais,
le coup.
C'est
vrai que ça te concerne un petit
ça
peu.
Ça me
quand
concerne
même, quand
parce que je vais chercher le garçon.
Ouais, c'est
une histoire qui se vit à deux, Grégoire.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. T'as raison.
C'est un échange.
Putain, j'ai vraiment foiré ma jeunesse.
Ah bah là, fallait l'écouter plus tôt. Bah, est-ce que ça a marché pour toi, Oli?
J'ai pas trop de souvenirs d'avoir grave pécho sur Lauryn Hill, surtout à 14 ans à l'époque. J'étais pas au top du top de mon glamour le plus intense.
Je te crois pas.
Merci, t'es gentil. Mais non, voilà. En tout cas, c'était une musique. Il y avait un truc un peu de... Ça transpirait le...
Sexe.
Voilà, j'allais pas le dire, parce qu'on était jeunes, mais il y avait un truc, quoi. Voilà.
Ok, il y avait une intention, déjà. Et toi, Fanny?
Ouais, moi, ça me rappelle plein de souvenirs d'enfance. Non seulement parce que Lauryn Hill, en fait, j'ai l'impression qu'elle a été partout, tout le temps, dans mon enfance. Ça commence avant même les Fugees, ça commence avec Sister Act, acte 2.
Ah, ouais.
Ou Rock and None, de retour au couvent chez les Québécois. Et ça, Sister Act, c'est 1993,
ouais.
C'est un des films cultes de mon enfance.
C'est
je
vrai.
L'ai regardé 1000 fois, je connais toutes les chansons par cœur. Et en fait, donc, cette petite Lauryn qui joue un rôle absolument phare dans le film, quelques années après, elle est dans les Fugees et évidemment, j'écoute beaucoup ça. Et ensuite, ouais, j'ai un souvenir extrêmement précis de la sortie de l'album.
J'avais oublié qu'elle était dans Sister Act.
Ah bon?
Complètement, ouais.
Ah bon, c'est fou.
Et pourtant, ouais, si.
Et donc, c'est l'album de Miss Education of Lauryn Hill. J'ai un souvenir hyper précis. C'est une de mes meilleures amies de collège qui me l'a offert pour mes 13 ans. J'étais en 5e. Et c'est la première fois de ma vie que quelqu'un de mon âge m'offrait un disque. Et en fait, c'est complètement cucu de dire ça, mais c'est un acte complètement fondateur dans le rapport que j'ai à la musique, parce que j'ai l'impression que c'était la première fois qu'on me faisait un cadeau de grand.
Oh,
ah,
mais
ouais.
C'est trop mignon.
Et surtout, tu as un album que à l'époque, j'estimais complètement badass, génial, et donc je l'ai énormément écouté, donc en 99, juste quelques mois après.
Bravo.
Et c'est vraiment un truc fondateur de mon adolescence.
Et toi, Manu?
Bah en fait, Fanny m'a piqué un peu mon anecdote parce que pareil, je l'ai découvert dans Sister Act 2 que j'étais allé voir au cinéma. Voilà,
la,
donc
la,
effectivement.
La, 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 la. Ah ouais, je me souviens bien.
Et effectivement, ouais, c'est grâce à Whoopi Goldberg un peu et à Lorraine Hill beaucoup que le lycée gagne le grand concours de la chorale.
Carrément.
Voilà, franchement, remater sur YouTube les petits extraits, c'est génial.
Ouais.
Et voilà, bon, comme tout le monde, moi j'ai passé un été à écouter Killing Me Softly des Fugees,
ouais.
Mais j'ai jamais vraiment écouté la suite, ni en solo, ni avec les Fugees d'ailleurs. Et voilà, moi à cette époque, toi, comme toi Grégor, j'écoutais plutôt du rock ou de la techno, voilà.
C'est la fin de l'épisode.
On était en avance, hein. C'est pour ça.
Bah, je pense.
Oui, forcément une grande maturité.
Ou grande complètement maturité déconnectée musicale. De la réalité de la musique de l'époque, je ne sais pas.
Non mais du coup, c'est un bon exercice de se replonger un petit peu dans l'album et sur l'histoire de ce succès, Oli.
Tout à fait, c'est moi, c'est Olivia. Donc, en effet, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de cet album. Le premier et le seul album studio de Lauryn Hill, Tu l'as dit Manu, sorti donc le 25 août 98. L'album va être nommé 10 fois quand même au Grammy Awards en 99 et gagnera 5 prix, dont celui du meilleur album de l'année. C'est le tout premier album hip-hop à recevoir cette récompense. Vous imaginez pas le truc incroyable.
Applaudissements. Bravo.
Bravo.
Bravo madame. À l'heure actuelle, l'album donc, s'est vendu à plus de 19 millions de copies à travers le monde. Il a influencé toute une génération d'artistes, de la soul au hip-hop. Et c'est vraiment devenu une référence absolue. C'est absolument dingue le nombre d'artistes qui continuent de citer cet album. Adele dit que cet album a changé sa vie. Mary J. Blige, qui était sur l'album, considère que c'est l'un des albums les plus incroyables jamais faits. Drake a récemment utilisé un extrait de X Factor dans sa chanson Nice for What. Je crois qu'on va en écouter un petit morceau. Louisiana shit. Murder on the beat. Something for y'all to cut up to, you know? Yeah. Everybody get your motherfucking roll on. I know shorty and she doesn't want no slow song. Had a man last year, life goes on. Haven't let the thing loose, girl, in so long. You been inside, know you like to lay low. I've been peeping what you bringing to the table. Working hard, girl, everything paid for. First, last phone bill, car, no cable. What you phone? Nice, je connaissais pas.
Nice for what?
Bien joué.
Joli.
Bravo.
Merci, merci.
Donc, il va vraiment y avoir un avant et un après dans le rap. On entend souvent parler de l'album de la maturité. Ici, je pense qu'il s'agit plutôt de l'album de l'émancipation, l'album de la revanche. Revenons à la jeunesse du projet, mon cher Manu. On est donc en 97, les Fugees sont en train de se séparer et Lauryn en a un peu gros sur la patate, comme on dit. Wyclef Jean est alors en train de sortir son premier album solo, sur lequel Lauryn Hill a d'ailleurs travaillé, et Praz Michel se lance dans un de ses projets perso musical. Lauryn se sent complètement abandonnée, le label ne ferait rien pour l'aider, Wyclef lui mettrait tout le milieu à dos et elle ne serait pas considérée à sa juste valeur parce qu'elle est une femme.
Pas cool.
Pas cool. Elle a l'impression de s'être fait avoir, elle ne se sent pas suffisamment mise en avant dans le groupe. Le manager des Fugees, Jason Jackson, reçoit un coup de fil de sa part.
Mais qu'est-ce que c'est que ces connards ? C'est moi qui ai parlé la première de faire un album solo et ils bossent sur les albums de tout le monde sauf le mien. Je quitte le groupe.
Elle en a marre, elle plaque tout, son groupe et son mec. Elle veut faire son disque comme elle l'entend. La plupart des chansons de son album traitent d'ailleurs de ses frustrations avec les Fugees. I Used to Love Him aborde la question, enfin, aborde la rupture artistique avec Wyclef Jean. On apprendra plus tard qu'il ne s'agissait d'ailleurs pas seulement d'une relation artistique.
Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Je ne dis rien, je ne balance rien.
Pas de spoil. Écoutez l'épisode jusqu'au bout, on vous dit
révélation.
Tout.
Elle règle donc ses comptes avec le rap aussi. Elle en a marre des clips avec des filles à moitié à poil. Elle en a marre de ces mecs qui incitent à la violence et qui ne parlent que de leur gueule. The Miseducation of Lauryn Hill est une déclaration d'indépendance. C'est une lettre de rupture, un avertissement aux hommes qui blessent inlassablement les femmes et qui, elles, les aiment. Mais The Miseducation of Lauryn Hill, c'est aussi et surtout une lettre d'amour. Personne ne le sait encore, mais elle est enceinte et ça va être le déclic pour la composition de son album. C'est une lettre d'amour au moi libéré, au moi maternel et à Dieu. C'est un album qui parle de la vie d'adulte, de femme, de mère, d'artiste à part entière. Elle y parle d'amour au sens large, qu'il s'agisse d'une histoire d'un soir ou l'amour d'une vie, d'amour maternel, de cet enfant qu'elle attend et qu'on lui a conseillé de ne pas garder. Oh, this crazy circumstance, I knew his life deserved a chance, but everybody told me to be smart. Look at your career, they said, Lauren, baby, use your head. But instead I chose to use my heart. Now the joy of my world is in Zion. Pense à ta carrière, Lauryn, chérie, pense avec ta tête, mais j'ai choisi mon cœur. L'enfant s'appellera Zion, comme le titre de cette chanson où Carlos Santana l'accompagne à la guitare.
T'imagines si elle l'avait appelée Babylone.
Et elle aurait été
ou Gérard
capable.
Gérard Staffarelli, ça aurait été un peu dur à porter quand même.
Bah, Zion, déjà, c'est quand même...
C'est donc bien de maternité que parle Toute Zion. Lauryn Hill attend un enfant de Rowan Marley, le fils de Bob, qu'elle a rencontré en tournée plusieurs mois avant. Personne n'est au courant de leur relation et encore moins de sa grossesse. Toute Zion explore ce chamboulement dans sa vie, ce nouveau départ, sa renaissance et ses frustrations. Elle a porté cet enfant et cet album en même temps, elle est presque habitée.
Excusez-moi, j'ai eu un vide. Je suis là avec vous.
Je suis où là?
Je fais une micro-sieste. Je reviens.
Quel vous que voulez-vous?
Mais qui sont ces gens?
Je vais faire un micro AVC, désolé.
Putain.
J'ai fait une attaque.
C'est trop d'amour. Ça l'a tué.
Tu le sens le pastaga?
Ouais.
T'as raison.
Le mec il est sur son portable.
Il fait des jeux.
Non mais si, ça s'excite à mort sur Twitter en ce moment là.
Il joue un serpent.
Non mais les gars, moi je suis multitâche.
Ah bah pas vraiment non.
Je suis multitâche.
Non pas vraiment.
Le mec il fait des jeux sur son
téléphone. Oh putain.
J'ai un Scrabble. J'ai un Scrabble.
Le niveau 10 à Candy Crush.
Bon. Oh là là.
C'est bon, on peut y aller. C'est cool, on s'est bien marré, mais c'est pas marrant, ok.
C'est pas marrant.
C'est pas marrant du tout, ok.
Ok.
Alors, on rigole pas. Ok, je te suis. Donc Lauryn Hill, c'est une femme indépendante et inspirée par l'amour de son prochain, mais elle s'est quand même octroyée tous les droits et tous les crédits sur l'album.
Tout à fait, mon cher Manu. Bien que cet album fût un travail collaboratif entre Lauryn Hill et New Ark, un groupe de musiciens encore parfaitement inconnus à l'époque, dont tu vas nous parler plus longuement, mon cher Greg.
Mais tout à fait, ma chère Olivia.
Mais avec grand plaisir, mon cher Greg.
Vous me saoulez tous.
Mais je t'en prie, ma chère Olivia, continue.
Je te passe le plat, mais je te le resserre.
Écoute, oui. Un petit peu de temps en temps de politesse. Moi, je trouve que ça ferait du bien à ce monde. Non, mais non. Donc, il semblerait donc qu'il y ait une petite pression du label pour faire un truc, je cite, à la Prince, c'est-à-dire toutes les chansons sont créditées par un écrit et produit par l'artiste en question, donc à savoir ici Lauryn Hill, avec une brève mention d'une aide extérieure. Je cite ici l'article paru en 2008 par Rolling Stone.
Mais n'est pas Prince qui veut.
C'est
ouais,
sûr.
C'est ça.
Alors qu'elle est en train d'enregistrer son album, on demande à Lauryn Hill de fournir des contrats aux musiciens, mais elle répond
« Nous nous aimons tous, ceci n'a rien à voir avec des contrats, et c'est une bénédiction ».
Elle les a bien niqués quand même.
J'ai peut-être oublié de vous dire que pendant l'enregistrement de l'album, Lauryn Hill est rentrée dans une phase mystique. Elle s'est plongée dans la Bible. De ses lectures ressort une sorte d'ésotérisme, une quête de soi inspirée par le paradis perdu, Zion. Bref, elle plane un peu. Et donc, malgré tout cet amour, Lauryn, ses managers et son label seront poursuivis en justice en 98 par New Ark.
C'est pas l'amour qui paye les factures.
Ça, c'est sûr. Donc, les mecs déclarent qu'ils avaient quand même coécrit et coproduit 13 des 14 titres de l'album. S'ensuit 3 ans de bataille judiciaire où le label va tout faire pour discréditer les musiciens de New Ark. Les poursuites seront finalement abandonnées grâce à un règlement à l'amiable et surtout un petit chèque de 5 millions de dollars.
Ça permet de lubrifier un petit peu les relations sociales.
Ça aide.
Il y a toujours un petit chèque dans le décor, quelque part.
Dès la sortie de The Miss Education of Lauryn Hill, le succès est énorme. La barre des 400 000 exemplaires vendus en une première semaine est dépassée. C'est hallucinant. Le succès de cet album confirme que le rap, c'est pas que des guns, de la weed et des filles en bikini. Le rap,
non,
ça peut se faire...
Un petit peu quand même.
André Young.
Le rap, ça peut être sensible. Et son histoire s'écrit aussi grâce à des femmes puissantes. Lauryn Hill en fait partie. Le problème, peut-être, mon cher Manu, c'est que Lauryn Hill ne s'est jamais relevée du succès de cet album, puisqu'il n'y a jamais eu de deuxième album. Son inspiration divine semble avoir complètement disparu, et malheureusement, Lauryn Hill traîne une assez mauvaise réputation. Un tempérament de feu et une énergie difficile à cadrer. Bref, plus personne ne veut bosser avec elle.
C'était joliment dit. C'est une grosse relou, ouais.
D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a un pianiste qui s'appelle Robert Glasper qui parlait à la radio américaine et qui expliquait qu'il avait un show avec Lauryn Hill. Et le gars, il a bossé avec des mecs comme Quincy Jones, enfin des gros poids lourds de la musique. Et il expliquait que Lauryn Hill, elle était impossible, quoi.
Elle est ingérable.
Et que lui-même connaissait les Newark et lui disait « Ouais, toi, t'as volé la musique, depuis, t'as rien fait. »
C'est dur.
Enfin, hein. Voilà, il lui est bien, bien rentré dedans. Elle a même dû répondre sur Twitter en expliquant « Ouais, c'est mon nom sur l'album, ok, mec, donc c'est moi qui l'ai fait. » Mais voilà, c'est un truc qui est ressorti il n'y a pas longtemps sur ce tempérament et finalement sur le fait qu'elle n'ait rien fait depuis, quoi.
Bah, y a plusieurs théories. Effectivement, certains disent qu'elle est très bipolaire, d'autres disent qu'elle a juste une hypersensibilité qui est un peu inadéquation avec le milieu.
Je crois que c'est Wyclef Jean justement qui disait « Moi, je veux bien rebosser avec elle, mais il faut qu'elle se fasse soigner. »
Voilà, exactement. Ouais. Et puis, elle a des exigences assez dingues en concert, à savoir « T'as pas le droit de la regarder dans les yeux, tu dois l'appeler Miss Hill, des grands tunnels de drap noir doivent être installés entre sa loge et la scène pour qu'elle ne croise personne. »
Normal.
Elle veut pas qu'il y ait de public à ses concerts non plus. Non, c'est compliqué à gérer.
Ouais, c'est difficile.
Ça fait un peu Maria Carré, les exigences, là, j'avoue.
Mais non, déplaise à tout ça, cette album est quand même assez incroyable et je pense que notre cher ami Greg va nous en parler un peu plus en détail.
Absolument. Alors si on revenait un petit peu sur le making of de cet album, parce que Grégoire, toi tu t'es intéressé à l'enregistrement de cet album qui a été créé entre les États-Unis et la Jamaïque.
Oui, tout à fait. Hein. Une grande partie des titres de l'album ont été écrits dans les Attic Studios dans le New Jersey. L'enregistrement proprement dit, lui, s'est déroulé entre novembre 1997 et juin 1998 dans les studios Chung King à New York et les studios Tuff Gong de Kingston. Les studios créés par Bob Marley pour s'affranchir de la pression des producteurs et dans lesquels il enregistrera l'album Survival avec les Wailers. D'ailleurs, de nombreux membres de la famille Marley assisteront aux sessions d'enregistrement de The Miss Education. Juan Marley, évidemment, le compagnon de Lauryn Hill, ou encore Julian Marley qui fera une guitare, notamment sur le titre Forgive Them, Father. Alors, on l'a vu avec Olivia, à cette époque, Lauryn Hill veut s'émanciper de la planète Fugees.
Qui, à l'époque, est un des plus gros groupes du monde, voire le plus gros groupe de rap de l'époque.
Elle est aussi persuadée que Wyclef Jean, son ex-compagnon, essaie de lui mettre des bâtons dans les roues pour l'empêcher de travailler avec d'autres musiciens du milieu hip-hop. Alors, elle décide de faire appel à un groupe totalement inconnu au bataillon, les Newark, composé de Kilo Pug, Vada Nobles et les frères jumeaux Joe et Tejumod Newton. Ils ont des noms à dormir debout.
Il a bossé, Greg.
C'était assez dur. Je vais plus jamais les nommer. Hein.
Ah bon.
Ce sont pour certains des proches de la famille de Lauryn Hill. Par exemple, Joe Newton explique dans une interview que pour eux, Lauryn Hill était vraiment comme une grande sœur. Et c'est sans doute que la chanteuse cherchait un climat un peu familial, familial et protecteur. Ce choix d'un groupe complètement inconnu, il surprend évidemment la maison de disques qui est aussi le producteur de l'album, Commissioner Gordon, grand nom du hip-hop qui a collaboré avec Alicia Keys, Will Smith ou encore 50 Cent. Et c'est vrai qu'à cette époque, Lauryn Hill, elle a la possibilité de travailler à peu près avec n'importe qui. Donc c'est plutôt osé de sa part de faire appel aux Newark, qui pourtant, on le sait, vont avoir un rôle prépondérant dans la création de ce disque. C'est vrai qu'en studio, c'est pas toujours facile de savoir qui fait quoi et donc qui doit être crédité. Sur The Miseducation, voilà comment les choses se seraient passées selon les Newark. Tout partait en fait de ce que Lauryn Hill avait en tête. C'était sa vision que le groupe des Newark tentait de matérialiser. Vada Nobles créait les rythmiques. Le groove qui allait ensuite être enrichi par les instrumentations des autres musiciens. Enfin, Lauryn Hill finissait d'écrire les paroles du morceau. Mais voilà pourquoi ça a pu créer aussi des tensions et ce procès derrière. C'est que c'est vrai que parfois en studio...
On sait pas.
Ouais, ça peut être compliqué de savoir qui fait quoi, qui est à l'origine du morceau. Mais là, voilà, c'est visiblement comme ça que ça se passait. Lauryn Hill donnait l'impulsion, mais concrètement, c'est quand même les Newark qui ont bossé, quoi.
Ouais, c'est là. Ouais. Moi, j'avais lu aussi que c'était un peu leur chance, le fait qu'elles soient un peu parano par rapport au milieu et tout ça.
Oui, bien sûr.
Et que ça les a aidées. Ouais.
C'est ça, c'était des mecs du ghetto, quoi, voilà, qui étaient hyper doués, mais qui n'avaient pas de connexion. Ouais.
Ouais, elle leur a vachement donné leur chance. Hein.
Elle leur a donné leur chance,
mais elle ne les a pas crédités.
Mais en même temps, voilà, derrière, ils se sont bien fait enfler.
Bah,
voilà,
ils ont récupéré 5 millions, ça.
Ouais, ouais. Ça va.
Alors, on en parlait tout à l'heure des paroles. Le respect de soi, c'est la sagesse, c'est la patience, et surtout le pouvoir de l'amour de Dieu, c'est beau.
Ouais, d'ailleurs, le disque est rythmé par des interludes où un professeur joué par le poète et homme politique Ras Baraka entretient un débat animé avec ses élèves sur le thème de l'amour, des interludes enregistrés dans le salon de Lauryn Hill dans le New Jersey et que l'on peut entendre par exemple à la fin du titre X Factor.
Hi people. I'm gonna write something on the board. Let's spell it. First letter.
L O
E. What's that?
Love.
What?
Love.
How many people know any songs about love?
Right here. Yeah, I know a lot about love.
Tell me some titles.
Yo, it's funny how money changes situations. Miscommunication lead to complication. My emancipation don't fit your equation. I was on the humble, you on every station. Someone play young Lauryn like she done. But remember not to game the one of the sun. Everything you did has already been done. I know all the tricks from bricks.
C'était Lost One de Lauryn Hill dans Radio Cassette. Et on va en venir au plus important, Greg. Maintenant, le son de l'album. Qu'est-ce qu'il a de si particulier?
Ici, pas question d'avoir un album ultra produit, hein, comme cela se faisait beaucoup à l'époque, avec des sons très compressés et retravaillés par ordinateur. Lauryn Hill veut aller à contre-courant de ce mouvement en conservant les imperfections de l'enregistrement studio. Et c'est ce qui fait tout le charme de The Miseducation. Finalement, Lauryn Hill parvient ici à relier le rap à l'histoire des musiques noires. On y entend des sons gospel, du reggae et des arrangements vocaux tout droit sortis d'un disque soul de la Motown, le tout dynamisé par les rythmiques hip-hop concoctées par Vada Nobles.
Ouais, donc c'est un album qui est extrêmement malin en fait, qui cultive l'art de la collaboration, la vue, du sample et de la reprise aussi.
Oui, il faut quand même se souvenir que Lauryn Hill doit une grande partie de sa célébrité à Killing Me Softly, reprise de Roberta Flack de 1972. Et dans The Miseducation, Lauryn Hill s'attaque à un autre monument, hein, celui de Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You, hymne disco popularisé par le groupe Boys Town Gang.
Caught in the way that I stand, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you.
Et puis il y a eu en effet beaucoup de collaborations, hein, notamment avec le chanteur de Neo Soul D'Angelo sur le titre Nothing Even Matters, avec le guitariste Carlos Santana sur Zion. avec la chanteuse de R&B Mary J. Blige sur I Used to Love Him, mais aussi avec des artistes moins connus à l'époque comme John Legend qui joue du piano sur le titre Everything is Everything. Côté sample, les connaisseurs auront reconnu The Doors dans Superstar, Sister Nancy dans Lost Ones, le Wu-Tang Clan sur X Factor et même, évidemment, Bob Marley, grande source d'inspiration.
Beau papa
ouais. Grande source d'inspiration sur cet album dans Forgive Them Father, titre au fort accent jamaïcain, vous allez l'entendre. C'est la guitare qui est samplée. On écoute d'abord l'original, puis la version de Lauryn Hill.
Forgive us our trespasses as we forgive those that trespass against us. Although them again we will never, never, never trust. Them not know what them do. They go to yai while I'm sticking like glue. Blink skin green while them plotting for you.
Ok, et donc du coup pour conclure, qu'est-ce qui selon toi a fait le succès de The Miz Education?
Bah c'est vrai que c'est un album qui a tout de suite obtenu le statut de classique instantané. C'est sans doute parce qu'il parvient à parler à beaucoup de monde, bien au-delà du cercle des amateurs de hip-hop. Les fans de reggae y trouvent leur compte, les fans de soul y trouvent leur compte, et le disque reste suffisamment pop pour séduire le grand public. Et c'est sans doute ce qui explique en partie le phénomène autour de The Miz Education of Lauryn Hill, qui a su bien mieux vieillir que beaucoup de productions soul et hip-hop de cette fin des années 90.
Ouais, et tu penses à quoi?
Bah, je pense.
Balance.
Allez, on balance les albums. Bah, je pense par exemple à The Velvet Rope de Janet Jackson, Share My World de Mary J. Blige ou encore Butterfly de Mariah Carey, qui sont des albums beaucoup plus marqués par ce son très compressé, métallique, ouais, qu'on retrouve pas dans cet album qui est beaucoup plus honnête, beaucoup plus généreux.
Et ouais, c'est le côté live en fait, quoi.
Ouais, et puis qui est plus relié, comme je disais, à l'histoire des musiques noires, au reggae, à la soul. Du coup, il y a ce côté un peu plus universel.
Ouais, moins daté,
complètement.
Ok.
Parce que c'est vrai que finalement, même nos parents écoutaient Lauryn Hill. Enfin, moi, je me souviens.
Ah ouais, tes parents écoutaient Lauryn Hill.
Ma mère.
Ok. Ils étaient cool, tes parents.
Alors, moi, ils étaient plutôt Frankie Valli.
Moi, ils étaient plutôt Frankie Vincent.
On n'a pas tous.
C'était bizarre à la maison.
Tu veux en parler, Manu, peut-être?
Dans un prochain épisode.
Pas de problème.
Alors, je me retourne vers toi, Fanny, parce qu'on va maintenant parler de l'artwork et du titre de cet album. Alors, pourquoi elle parle de mauvaise éducation, Lauryn Hill? C'est quoi? C'est son côté bad boy?
Mais alors, elle n'est pas tellement bad boy, elle est plutôt control freak. Concernant la direction artistique de l'album, elle fait partie de ces artistes qui savent d'avance ce qu'ils veulent et ont une idée très précise de l'image qu'ils veulent véhiculer. Ici, on retrouve partout comme fil rouge l'idée de transmission, voire même d'éducation, telle qu'annoncée dès le titre de l'album, The Miz Education of Lauryn Hill. D'ailleurs, ce titre, il s'inspire de deux ouvrages littéraires. Premièrement, The Miz Education of the Negro, un livre de sociologie de Carter J. Woodson datant de 1933, et deuxièmement, l'autobiographie The Education of Sonny Carson de 1972, qui raconte comment un ado afro-américain se retrouve embrigadé dans un gang. Pour Lauryn, cet album, c'est le récit d'une métamorphose. Alors, Olivia l'a largement dit tout à l'heure, c'est un vrai rite de passage de l'enfance à l'âge adulte. On a une jeune artiste de 22 ans qui quitte le groupe avec lequel elle a connu le succès pour se lancer en solo. Et cette étape professionnelle majeure se double d'une grossesse qui représente elle aussi un changement majeur dans sa vie personnelle. À ce stade, Lauryn comprend que sa grossesse lui permet de mettre en parole des sujets intimes et des émotions sur lesquelles elle n'a pas l'habitude de communiquer. Elle veut que son disque devienne une référence sur certains sujets. On a vu son engagement personnel de plus en plus grand envers la religion et le rôle du professeur qui débat sur l'amour dans plusieurs interludes. Donc on a un clin d'œil à l'éducation dans le titre de l'album, puis un professeur qui intervient sur l'album tel un Platon des temps modernes, et visuellement, cette métaphore va continuer dans tout l'artwork. Alors on commence avec le livret intérieur où on découvre une série de portraits qui ont été orchestrés par Laurine elle-même, en collaboration avec le directeur artistique Erwin Gorostidza et le photographe Eric Johnson. Déjà, pour le choix du photographe, il y a une anecdote marrante, c'est que Laurine avait constitué tout un moodboard avec des références et des noms d'artistes. Dans la shortlist de photographes, il y avait deux grands noms, parmi lesquels Peter Lindbergh, et le troisième, Eric Johnson, c'est un mec beaucoup moins connu, mais qui bossait avec pas mal d'autres artistes du genre Alicia Keys ou Maxwell.
Maxwell, moi ça me fait penser au Café Maxwell.
Ouais, non, c'est le
pas la peine d'en
rajouter. Chanteur. Et donc Johnson est originaire du New Jersey comme Lauryn Hill. Sa mère travaillait dans un salon de coiffure à South Orange et au détour d'une discussion, ils se sont rendus compte que Lauryn allait se faire coiffer là-bas quand elle était petite. Elle a trouvé la coïncidence vraiment, enfin que c'était une sorte de signe.
Ça lui a
donc,
plu ça.
Elle l'a embauchée direct.
C'est un signe.
Pour la séance photo de l'album, elle voulait que ça ait lieu dans un lycée. Après avoir refusé pas mal de propositions d'établissement, elle a appelé le proviseur de son ancien bahut à South Orange et ils ont eu l'autorisation d'y faire la séance. Plus autobiographique, tu meurs. Donc plein de portraits ont été pris dans le hall, dans un bus scolaire, dans les toilettes pour filles, au tableau, dans la salle de classe, du lycée, de Lauryn Hill. Quelques semaines plus tard, le manager de Lauryn appelle le DA avec une nouvelle idée de création pour la pochette cette fois. Ils veulent utiliser un portrait pris par Eric Johnson et le faire graver digitalement sur un bureau d'écolier. À l'époque, ce montage a demandé énormément de travail parce que Photoshop s'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Donc les retoucheurs étaient vraiment balèzes. Et on se dit, waouh, genre Lauryn, elle est vachement forte quand même à tout conceptualiser toute seule comme ça. Sauf que ouais, bon, en fait, la pochette, elle s'inspire un peu beaucoup d'un album de Beau Papa.
Oui.
J'ai nommé Burning de Bob Marley and the Wailers, sorti en 1973. On vous mettra l'image sur les réseaux sociaux pour que vous jugiez par vous-même. C'est assez flagrant.
Mais à tel point que moi... au tout début de la sortie de cet album, je pensais que c'était vraiment du reggae.
Quand j'ai,
la première fois que j'ai vu l'album,
clairement,
je me suis dit, elle s'est lancée dans le reggae. Je me souviens très bien m'être fait cette réflexion. Pour moi, c'était un album de reggae. Alors, je comprends la référence, mais on voit d'où ça vient quand même, quoi.
Alors, cette pochette, elle est assez dingue. Elle est assez dingue à tout point de vue, effectivement. Et on vous parlait tout à l'heure des Grammys, mais Lauryn Hill a aussi remporté les MTV Awards pour le clip de Doo Wop.
Alors on est en 1998, l'art du vidéoclip est alors florissant et les maisons de disques mettent un gros paquet de thunes sur la table pour embaucher de bons réalisateurs. On a vu ça notamment dans notre épisode sur Daft Punk et c'est ici qu'intervient Camille Yorick, directrice de la production vidéo chez Columbia à l'époque. Elle conçoit un brief créatif pour le clip et fait passer un casting que va remporter le duo anglais Big TV, formé par Andy Delaney et Monty Whitebloom, notamment parce que c'est eux qui ont eu l'idée du split screen qu'on voit à l'écran. Alors ce clip, je me rappelle que je le voyais hyper souvent à la télé, je le trouvais super beau, avec cette histoire qui se déroule simultanément dans deux époques. Dans la partie gauche de l'écran, c'est les 60s, et dans la partie droite, c'est les 90s. Il n'y a pas de démarcation entre les deux, mais tous les petits détails visuels permettent d'ancrer les images dans leurs époques respectives.
Alors vous allez rigoler, mais moi j'ai pas compris non plus tout de suite. C'était ça le concept de...
Qu'il y avait de Lauryn Hill, t'avais pas pigé ?
Non, je pensais qu'en fait elle parlait de... Alors pardon, hein, je naïve à l'époque, mais j'avais pas compris que c'était années 60 et années 90. Je pensais que c'était deux elles, mais une plus chaudasse et l'autre un peu plus timorée.
Ouais.
Voilà, c'est pardon pour ça.
Non, mais,
en même temps, ça correspond pas à ça, je crois.
Oui, il y a quelque chose de ça parce que par exemple, dans les 60s, Lauryn elle est tirée à quatre épingles avec une robe zébrée, les cheveux lisses au carré. Elle chante avec un cœur classique R&B derrière elle. C'est vrai que c'est très très propre.
C'est vraiment les Supremes quoi de l'époque.
Ouais. Oui, c'est ça. Ouais.
Alors que dans le présent. Enfin, dans les 90s, à l'époque, elle est plus en mode hip-hop, femme libre, avec ses dreadlocks pleines d'assurance.
Quoi. Voilà, exactement. Avec une petite robe ultra moulante, des gros talons. Enfin, je me rappelle qu'elle était super
coquine.
Par contre, si vous revoyez le clip, faites attention à ce détail que j'avais pas vu moi non plus à l'époque, mais qui était bien bien enceinte aussi sur le tournage du clip.
Ah
ouais. Et donc ouais, le tournage a eu lieu à Washington Heights à Manhattan sur 5 jours, durant lesquels toutes les prises ont été faites donc deux fois, avec deux lots d'accessoires dédiés, des voitures, des costumes, des devantures de magasins, des postes radio, les caméras vidéo, enfin tous les détails.
Ah ouais.
Pour correspondre aux deux époques.
Tu m'étonnes que ça a pris 5 jours, quoi.
Et donc, être un tout est prétexte, ouais, tout est prétexte à explorer à fond, c'est les attitudes, la mode, la manière de danser, de faire des parallèles.
La manière d'écouter de la musique, c'était platine vinyle, ouais, la radio, ouais, et compagnie.
Mais même il y a des plans, je l'ai revu, je suis un peu moins naïve, il y a des plans de l'appartement, il y a une manière d'être aussi chez soi, où on s'ennuie, pas pareil dans les années 60 que dans les années 90, ouais. c'est assez beau comme ça.
C'est vachement bien fait et ça a énormément plu. La preuve, comme tu l'as dit Manu, le clip a remporté le titre de meilleure vidéo de l'année aux MTV Awards.
Canon.
Pour moi, ça a été une grosse claque de me replonger dans la clipographie de Lauryn Hill. Depuis qu'on a fait le podcast, j'en ai visionné des dizaines de clips, mais là, j'ai trouvé qu'en termes de réalisation, de concept et de photographie, on était vraiment dans le haut du panier. Il y a le clip aussi de Everything is Everything, que je ne vais pas beaucoup approfondir, mais le synopsis, il est trop cool. On voit New York transformé en gigantesque platine vinyle avec une aiguille géante qui raye le bitume. Les effets spéciaux sont hyper bien faits. C'est presque un petit film. Servez-vous un bol de popcorn, foutez-vous sur YouTube et allez le voir, vous ne serez pas déçus. et à nouveau, donc avec ses vidéos, Lauryn Hill se positionne comme une figure de défricheuse. Elle emploie absolument rien de l'imagerie habituelle du rap masculin et montre au contraire qu'il y a une place au soleil à se faire pour les femmes MC. Je trouve que c'est une excellente figure du Black Empowerment et quoi qu'on pense de son parcours après cet album, rien que pour ça, je lui tire ma révérence.
Ouais, tu sens que c'était un album qui était produit, il y avait des moyens, elle pouvait faire ce qu'elle, faire ce qu'elle voulait, elle sortait les Fugees, clairement c'était carte blanche.
Donc c'est un peu cruel de dire que finalement, sans Newark, elle a rien fait derrière. C'est vrai, mais en même temps, elle a quand même, je pense, énormément nourri son album.
Non, puis c'est pour ça qu'aussi que cet album il reste aussi majeur dans l'histoire du R&B récent, quoi.
Carrément. Alors mes amis, mes frères, on a parlé d'indépendance, on a parlé de rap, de R&B, on a parlé de l'amour de Dieu. C'est le moment maintenant de faire le bilan sur The Miseducation.
Le jugement dernier un peu.
Ah, c'est un peu ça. Alors. Qu'est-ce que vous en avez à penser ? On va commencer par toi, Olivia.
Ben, écoute, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le réécouter. Ça faisait vraiment longtemps que je ne l'avais pas écouté. Je ne sais pas pourquoi, je l'avais un petit peu sorti de ma vie, cet album. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Je trouve qu'il y a un vrai truc qui se tient et c'est toujours encore d'actualité. Enfin, il y a toutes ces questions de féminisme, on continue d'en parler, de cette histoire d'indépendance. Enfin, moi, ça continue de me faire un peu... Enfin, ça me nourrit, on va dire. Donc, j'ai apprécié vraiment réécouter cet album. Ça n'a pas vraiment vieilli, comme tu le disais, Greg. Et pareil, les clips, comme le disait Fanny, j'ai eu pas mal de plaisir à me les re-regarder. Et ceux des Fugees, notamment Killing Me Softly, où ils sont dans le cinéma, où ils se balancent du popcorn et tout. Enfin, j'ai bien aimé, quoi.
Voilà. Belle époque, ouais.
Ouais, c'est clair. Et toi, du coup, Fanny, t'en as pensé quoi à la réécoute?
J'étais assez mitigée, à vrai dire. Enfin, je m'attendais pas à ça. Je l'avais énormément écouté donc à l'époque. Et là, ça correspond vraiment plus trop à ce que j'ai envie d'écouter aujourd'hui. Et bizarrement, je me suis retrouvée exactement 20 ans en arrière parce que je me suis rendu compte que j'aimais exactement les mêmes titres qu'à l'époque et que finalement...
T'as pas changé, quoi, c'est ça.
Mon jugement la même. Ne changeait pas, genre ma préférée c'est encore Tous ailleurs,
ouais,
genre la guitare de Santana.
Ah ouais.
Ouais, je pense aussi.
Il y a débat.
Mais moi c'était ma grosse époque Santana. Juste après, c'est la même année quasiment où il a sorti Maria Maria sur son album, tu vois.
Et j'ai
écouté ça à l'époque, mais à fond. Et,
Latin Lover,
ça m'a rappelé mes petits souvenirs de.
Non, je préfère les morceaux un peu hip hop.
X Factor, ouais. C'est trop bien. Enfin, non, mais il y a vraiment
Ones,
des trucs. Et comme sur l'album de Dr. Dre, toutes les intros et toutes les interviews me font chier complètement sur l'album de Lauryn.
Moi, ouais, j'aime bien. Voilà. J'aime bien ce que le prof qui parle là, qui déblatère sur l'amour.
C'est des trucs que tu trouves sur des albums, par exemple, de Curtis Mayfield, sur des albums de Soul comme ça, où t'as des sortes d'interludes. Moi, je sais pas. Ça me parle en tout
moi,
cas.
J'aime bien
moi qui aime bien la musique soul, du coup ça me dérange pas ces interludes.
Mais alors là, l'album, tu t'as aimé ou pas, Greg?
Ouais, moi franchement, c'est vrai que c'est un album que j'écoutais pas dans les années 90, mais en le réécoutant, ouais, je trouve ça franchement super bien. Après, pour moi, il y a toujours une tension, en fait, parce que à la fois, cet album, je le trouve très bien, et en même temps, j'ai un problème avec Lauryn Hill, avec sa personne, avec ce côté diva, ce côté j'arrive 3 heures en retard au concert, ce côté complètement déglingué.
Le fameux débat, l'homme
ce
et
côté,
l'artiste.
Ce côté, ouais, bah, c'est un peu ça, ouais, ce côté un peu déglingué. Le fait qu'il y ait eu effectivement ces tensions, enfin ce problème juridique
faut
avec le groupe.
Il faut se dire qu'elle avait 22 ans quand même aussi, tu vois.
Ouais, ouais, bien sûr. Non, mais ça, je comprends. Elle avait 22 ans. Puis elle avait une énorme pression du label.
La meuf était enceinte, elle devait fumer des pétards à fond la caisse avec son mec en Jamaïque. Moi, j'ai lu que elle enregistrait allongée par terre, complètement hallucinée dans des espèces de tripes où elle parlait d'amour à tout le monde. Enfin, j'imagine l'enregistrement, ça a dû être quand même un truc, mais complètement hallucinant, quoi.
Donc effectivement, la personne, l'artiste, Lauryn Hill, comme tu l'as dit, je veux dire, elle a rien fait en 20 ans. Moi, ça me dérange. Enfin, je veux dire,
elle a fait 6 enfants.
Je ne l'aime
monsieur.
Pas. Je n'aime pas Lauryn Hill. Je n'aime pas Lauryn Hill pour ce côté-là. Après, cet album, franchement, il n'y a rien à dire, quoi. C'est un album que je trouve hyper bien produit. Et ouais, t'as l'impression d'écouter finalement une sorte de version féminine de Bob Marley, quoi. Un côté pop, côté hyper roots. Un côté hyper roots. Ouais, non, mais hormis le côté hip-hop, il y a un côté hyper roots et en même temps pop. Et finalement, c'est ce qui a permis à Bob Marley d'être ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est à la fois du reggae et en même temps, il y a un sens de la mélodie qui est absolument incroyable. Et je trouve que dans cet album, tu retrouves cette quintessence. Voilà, donc respect pour
ça. Il a dit quintessence.
Ouais. j'ai réussi à placer le mot quintessence. Donc respect pour ça. Mais c'est vrai que Lauryn Hill, personnellement, je l'aime pas beaucoup.
Non, mais
voilà.
En tout cas, c'est marrant parce que je pensais que t'allais me tracher l'album.
Ouais,
non, complètement.
Pas du tout,
je suis hyper surprise. Et Manu, toi, t'aimes ou t'aimes pas?
Eh ben écoute, moi c'est pour le coup une vraie découverte parce que cet album,
t'écoutais
je le connais.
Pas, ouais.
Non, j'écoutais pas. Et j'ai pris vachement de plaisir à l'écouter. Je me suis éclaté à faire le mix qu'on a écouté en début d'émission. Et voilà, moi j'adore plein de titres de l'album. Mon préféré pour le coup, c'est celui avec Mary J. Blige. Je le trouve génial.
Ouais.
Avec ce petit sample un peu strident à la Psycho et tout. J'adore, je suis fan. Et voilà, par contre, j'ai vachement plus de mal avec les deux covers de l'album. C'est celle des Doors.
Ouais,
j'ai désolé. Et puis le Can't Take My Eyes Off You, là, pareil, je trouve que c'est un peu la facilité. Voilà, il y a le petit côté Killing Me Softly. Voilà, je trouve que c'est.
Ouais, peut-être elle est tombée dans le piège. Mais
ouais.
Après, moi, ça me ferait plaisir qu'elle revienne là. Tu vois, qu'elle revienne avec un truc.
Et pourquoi pas un album de featuring avec Kanye West. Les deux barjots là, du R&B.
pas barjots pareil. C'est peut-être le problème.
Les deux illuminés.
Non, mais tu sais, il y a un petit storytelling quand même, l'oiseau blessé qui pendant 20 ans a galéré, elle pourrait revenir plus forte.
Ouais,
je sais pas, j'imagine.
Mais j'y crois pas trop. Hein. J'y crois pas trop. Je crois que c'était la femme d'un album, c'était celui-là, et depuis elle a rien fait, et je pense qu'elle fera jamais plus rien. Désolé, Lauryn, salut.
Si tu nous écoutes.
Bon, on va rester là pour cette émission. Alors voilà, c'est déjà la fin. Est-ce qu'on a oublié de dire un truc? Non. Alors, on avait envie de partager avec vous notre avis sur ce disque culte des années 90 qu'avec le Cassette Crew, avec Fanny.
Merci.
Avec Grégoire.
Hey, bye.
Et Olivia.
Bye, bye.
On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, on se retrouve sur Twitter, Instagram et sur Facebook. Et j'en profite pour remercier Lolo DL pour son gentil message sur Apple Podcast. Elle nous dit « J'adore, je me replonge toujours dans de bons souvenirs. J'ai dû m'écouter Nevermind pendant un bon mois tous les jours après votre podcast. » Emoji cœur qui bouge. Donc ça fait...
cœur qui bouge.
Cœur qui bouge.
Je le connaissais pas celui-là.
Non, c'est pas évident à faire, mais on vous mettra le raccourci clavier. nous aussi, ça nous arrive, figure-toi. C'est pas tous les jours facile pour nous. Je crois que le plus dur, c'était après l'épisode Ace of Base.
L'enfer. L'enfer Ace of Base, tu veux dire.
C'est clair. D'ailleurs, je vous avoue, j'écoute encore Ice of the Sign. Putain, j'en peux plus. Voilà. On va se quitter maintenant avec Doo Wop, les petits chats. Gros bisous et cœur avec les doigts.
Bisous, à bientôt.
Bisous,
ciao.
Bisous.
Bye,
ciao.
Bye.
Cœur qui saute, cœur qui saute.
Yo. my men and my women, don't forget about the dean. This is not the most of king, yo. It's about a thing, yeah.
Feel yo. Real good when your hands in the air and lick two shots in the atmosphere.
Since you were looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to bend your mans? Yeah. You act like you ain't him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gon' pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, and you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian. A Muslim sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gon' tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gin, baby girl. Respect is just the minimum. Nigga, but you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. And his Timbs and his women, him and his men. Come in the club like hooligans. Don't care who they offend, Papa Yang.
Like you got yin.
Let's stop pretend. The one that pack pissed out by the waistman, crissed out by the casement. Still the name of his basement. The pretty face man, claiming that they did a bid, man. Need to take care of their 3 and 4 kids. Been the face in court case when the child support's late. Money taking, heartbreaking. Now you wonder why women hate me. And the sneaky silent man, the punk domestic violence man, the quick to shoot.